la sociedad boliviana en general no es feminista. Las propias mujeres no se consideran como feministas en Bolivia. En Bolivia es una mala palabra, feminismo. Por eso esta casa es una afrenta.
Bah, en general, ni Evo Morales, ni même les femmes sont féministes. En Bolivie, féministe, c'est comme un mauvais mot.
Un vil mot.
Un vil mot, oui.
Un dromadaire sur l'épaule, Mélanie Croubalian et Monsieur T.
Bonjour à tous, bienvenue en Bolivie. Aujourd'hui à La Paz, le temps est couvert, il fait tout juste 6 degrés. Elle s'appelle Juanita la Chaude, Isabelle la voleuse de cœur, Yolanda la bien-aimée ou Anna la vengeresse. Elle pratique sans sourciller l'étranglement, la cravate, le marteau pilon et évolue en toute féminité dans le milieu hautement masculin de la lucha libre, le catch à la bolivienne. Ces Cholita portent toujours chapeau melon noir, châle coloré, jupons superposés, mais elles ont osé défier leur rôle traditionnel de femmes soumises et se sont autoproclamées les déesses du ring. Certaines d'entre elles partent en tournée à l'étranger, tout arrive grâce à cette occupation annexe à mettre du beurre dans les épinards de leur famille. Mais surtout, le catch est pour ces Cholita l'occasion de montrer qu'elles peuvent lutter comme des hommes et parfois même contre eux. Un catcheur conservateur, El Cazador Oriental, le chasseur de l'Est, en a récemment fait la mère expérience, Carmen Rosa, plus connue sous son nom de scène, la campeona, la championne, l'a humiliée en plein combat en lui arrachant son masque. Elle a ensuite fait face au public en clamant que les femmes sont toujours les meilleures. Véronique Marchand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous travaillez sur les relations interethniques et de genre. Vous avez publié aux éditions de l'Harmattan un ouvrage intitulé « Organisation et protestation des commerçantes en Bolivie ». C'est une étude qui parle surtout des Cholitas, ce sont ces femmes indiennes qui traditionnellement officient comme vendeuses dans les rues de La Paz. Vous êtes en direct avec nous depuis Lille.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire Cholita en fait ?
Ma Cholita, c'est un diminutif affectueux de Chola. C'est-à-dire que, littéralement, on pourrait dire petite Chola, mais en fait, c'est pour enlever le côté dépréciatif du mot Chola. Parce que Chola, c'est très péjoratif au départ. C'est un nom qui est donné par les couches supérieures, les señoras, les dames de la ville, qui disent donc que Chola, c'est une manière de dire... indienne en ascension sociale et de rappeler le côté indien. Donc au départ, c'est très péjoratif. Et en ajoutant ce petit diminutif, hein, ce « ita », on donne comme ça un côté affectueux à la Chola.
Et le mot « Chola », qu'est-ce qu'il veut dire en lui-même ?
Ben, le mot « Chola », il veut dire... En fait, son étymologie est très controversée. Pour certains, en fait, ça vient du mot chula qui désigne la couche sociale de Madrid, la plus basse. Donc ça, c'est par rapport à l'historique du mot. Pour d'autres, au contraire, ce serait une castillanisation d'un mot aymara dans la région de La Paz, donc chulu qui veut dire métisse. Donc pour résumer, on peut dire que c'est une indienne, quelqu'un qui vient de la campagne, qui arrive en ville, voilà, qui est
donc
migrante.
C'est un nom qui a été donné par les señoras, par les classes supérieures, donc pas les Cholitas elles-mêmes, mais elles l'ont adopté, voilà. Finalement.
Exactement. C'est pour ça que je vous disais, c'est beaucoup plus complexe que cela, parce que au départ, ça a été une définition exogène, disons, donnée de l'extérieur par les señoras, de vestido, d'ailleurs, autant on appelle les señoras de vestido, c'est-à-dire les dames de la ville habillées à l'occidental, donc en jean, en robe, etc. Et les cholas, c'est les mujeres de pollera, c'est-à-dire les femmes avec les jupes bouffantes, les chapeaux melons, les bijoux,
les châles,
les ballerines, etc.
On reparlera de cette importance des vêtements tout à l'heure.
Oui, c'est très important.
Je parlais de ces cholitas maintenant d'un nouveau genre, des cholitas féministes qui vont même jusqu'à faire du catch et à se battre contre des hommes. C'est quelque chose de nouveau, vraiment ?
Oui, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. On a eu les Miss Chola, qui étaient représentées par différents marchés, d'ailleurs. Parce que le mot Chola, en réalité, si rien que s'amuser à définir le mot Chola, ça peut prendre l'objet d'un livre. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est lié à une certaine profession. Une profession intermédiaire. Mmh. Donc les employés domestiques, les commerçantes, et souvent correspond au dénominatif Chola, une profession intermédiaire.
Mmh, plus qu'une ethnie. On parlera en deuxième partie d'émission de cette communauté des Cholitas, de la place qu'elles occupent dans la société bolivienne. Pour l'instant, je vous propose de suivre notre reporter.
Oui.
C'est Stéphane Herzog. Stéphane Herzog, vous êtes avec nous pour votre quatrième jour de voyage à La Paz. Vous nous emmenez à la découverte d'un emblème du féminisme bolivien, je crois qu'on peut le dire.
Oui.
C'est une maison rouge sang, la maison de Mujeres Creando. Ça veut dire quoi ?
Donc c'est les femmes créatives ou les femmes en état de création, c'est le nom du mouvement.
Mmh. Elle se trouve où, cette maison ?
Alors c'est une maison qui est à Sopocachi, donc le quartier un peu branché, cosmopolite de la ville de La Paz, sur l'avenue du 20 octobre.
Mmh. Elle est un peu cachée ou elle est facile à trouver ? Est-ce qu'elle est exposée aux yeux de tous les paseños et paseñas, les habitants de La Paz ?
Oui, je crois qu'une bonne partie des habitants la connaissent, d'une part par sa couleur et en plus par le symbole qu'elle représente. Et elle est effectivement très visible partout, elle est dans un quartier qui est très fameux, donc oui, il n'y a aucun problème.
Mmh. Vous êtes accompagné toujours de votre fidèle traducteur, Sébastien Suarez, deux hommes dans un repère de féministes. Honnêtement, vous avez hésité à entrer dans cette maison ?
Bien, moi, pas tellement, mais Sébastien Suarez, 23 ans, voilà, étudiant en philosophie, venant d'une bonne famille. Il a eu quand même un petit moment d'hésitation, parce que pour lui, rentrer dans un repère, entre guillemets, de féministe, c'était quelque chose d'un petit peu difficile.
Mm-hmm. On vous trouve à ses côtés, vous êtes devant la porte de la maison de Mujeres Creando, et c'est vrai que Sébastien n'est pas très rassuré.
Donc toi, tu sais deux, trois choses sur ce lieu déjà. Ce que tu en sais, c'est quoi ?
Ben franchement, c'est la première fois que je vais entrer ici parce que bon, ces groupes féministes, c'est un peu hostile pour nous, pour les hommes, parce qu'ici, bon, on est en Bolivie, on est une société plutôt conservatrice, non ? Alors quand on voit ces genres de groupes, on croit qu'ils sont un peu hostiles, non ? Ils sont féministes, mais contre les hommes. Parfois, on a peut-être eu un peu de peur, mais je crois que tout va se passer bien et on verra.
Ok, parfait. On voulait vous lire un petit peu ce qu'il y a sur les panneaux devant pour vous montrer un petit peu les activités qui sont proposées ici pour le public. Alors, il y a Internet para nosotras, voilà, Internet pour nous les femmes. Il y a une garderie. Alors il y a un petit écriteau, c'est marqué « Mi mama trabaja », ma mère travaille, et il y a une garderie pour les petits de 2 à 5 ans. C'est aussi marqué, indiqué « Consultation médicale gratuite ». Voilà. Donc on y va, on rentre dans la maison, on passe sous un portail noir. Et on pénètre dans le café. Voilà.
Il y a un graffiti qui dit « Pensar es altamente femenino ». Ça veut dire « Penser, c'est vraiment féminin ». Alors, bon, les pensements de ces groupes, c'est intéressant.
Alors voilà, on commence la visite avec Maria Galindo, qui nous fait faire la visite des lieux. Alors, elle a un joli chapeau noir, elle a un superbe écharpe verte, des grandes boucles d'oreilles, superbes, et voilà, des bottes en cuir, et on la suit dans la maison de Mujeres Creando.
La casa es un espacio de solidaridad, ¿ya? Entonces, es un lugar donde tú puedes intercambiar muchas cosas entre distintos circuitos de personas, ¿ya?
Ok, la maison, c'est un endroit d'interculturalité où on peut échanger des choses et avec des autres gens.
est-ce que c'est juste si on dit que c'est d'abord la maison du féminisme à La Paz?
Sí, yo creo que eso sí. Mujeres, o sea, la Virgen de los Deseos es vista como un lugar feminista, pero también es vista como un lugar de peligro, de misterio. También es vista como un lugar de solidaridad. Tiene muchos rostros, pero sí, es una casa del feminismo, pero no es institucional. En esta casa no hay escritorios, no hay funciones, no hay relaciones jerárquicas.
D'accord, donc là je peux traduire, c'est une maison qui n'est pas une maison institutionnelle, qui est une maison ouverte, qui en effet est une maison qui est une maison féministe, qui s'intéresse au féminisme, mais qui est d'abord une maison ouverte, une maison de rencontre, une maison de parole. Est-ce que Maria Galindo peut nous dire un petit peu deux, trois choses sur elle? ¿Y cuáles son las cosas que lo han llevado a fundar esta casa?
Mira, yo me nombro a mí misma como agitadora callejera.
Moi, je m'appelle moi-même comme agitatrice de la rue. ¿No?
Y yo estoy en la lucha social y política desde los 18 años. Ahora tengo 44.
Je suis dans la lutte sociale depuis que j'avais 18 ans. Maintenant, j'ai 48.
Y soy muy feliz en la lucha. Las cosas más bonitas de mi vida, más profundas, las he sentido en momentos de lucha en la calle.
Je suis très heureuse avec la lutte. Les moments les plus beaux de ma vie, je les ai sentis dans la lutte dans ma vie.
Yo vengo de la clase alta en Bolivia. Entonces, a mí ha sido como un viaje meterme en la lucha social porque la clase alta boliviana para las mujeres es una clase alta muy conservadora y muy represiva.
Je viens de la classe haute de la Bolivie, alors c'était comme un voyage intéressant de venir et faire la lutte sociale. Mais d'autre part, la classe haute bolivienne, c'est vraiment conservatrice, surtout auprès des femmes.
Alors, aujourd'hui, concernant la situation des femmes en Bolivie, qu'est-ce qui, pour Madame Galindo, paraît le plus grave et le plus nécessaire comme changement?
Lo único que podemos hacer y que tiene sentido es alimentar la rebeldía.
La seule chose qu'on peut faire, c'est de nourrir la rébellion.
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 La rébellion.
La rébellion.
Mais la rébellion contre quoi?
Es que es una rébellion personal y colectiva, ¿ya? Cuando una mujer ahorita quiere estudiar algo y su padre no le deja, cuando una mujer desea abortar, cuando una mujer se enamora de otra mujer, cuando rompes los mandatos culturales, los mandatos políticos, los mandatos religiosos, cuando rompes la servidumbre en la que naces como mujer, cuando rompes todo eso, ese es parte de una rebelión que se conecta con otras rebeliones.
Donc chaque fois qu'une femme désire poser un acte de liberté, soit avorter, soit sortir avec une autre femme, soit fonder son foyer de la manière où elle l'entend, soit étudier et que ses parents veulent l'en empêcher, là, il y a un acte en fait, de rébellion qui doit être effectué. Et ici, cette maison, elle fait partie de la chaîne d'événements dans ces actes.
Et en un segundo momento, tu conectas rebeliones, construyes una alianza. Esa alianza que nosotras construimos es una alianza que le llamamos de indias, putas y lesbianas, porque son tres metáforas de las mujeres indeseables.
Y sí, hay aussi des liens entre rébellion. Il y a des liens de rébellion entre prostitutes, entre lesbiennes et entre indiennes, que son les pires faces de la femme pour la société.
Quels sont les liens qui unissent justement les prostituées, les lesbiennes et les indiens ou les indiennes?
La désobéissance.
La désobéissance. Est-ce qu'elle peut nous dire en quelques mots d'où elle vient au niveau de ses études, de sa culture, quel trajet, deux, trois informations sur sa biographie au fond?
Un poco sobre vos, qué has estudiado, de qué familia vienes, cómo fue tu historia.
Fue muy divertido. Yo empecé a militar en la izquierda armada boliviana.
Bah, je commençais à militer dans la gauche armée bolivienne.
Y muy pronto hubo un, vino el neoliberalismo y hubo una persecución bastante fuerte.
Et très tôt, el neoliberalismo est venu et il y a eu une persécution très forte.
Entonces yo tuve que huir porque la izquierda tampoco aceptaba mi condición lésbica.
Alors j'ai dû fugir parce que fuir parce que la gauche bolivienne n'acceptait pas ma condition de lesbienne.
Y unas monjas que me querían mucho me ayudaron.
Et quelques sœurs qui m'aimaient beaucoup m'ont aidé.
Entonces ellas me dieron documento como religiosa. Y huí a Italia, a Roma.
Ils m'ont donné un document religieux et je suis allé en Italie.
Y entonces yo estudié en el Vaticano, en una universidad del Vaticano, tuve que estudiar como monja.
Et j'ai dû étudier comme sœur, comme monja, dans une université du Vatican.
5 años.
5 años.
Ça c'était dans quelles années?
Entre el 80, por esas épocas. Y después sí, regresé y rompí con la izquierda y empecé Mujeres Creando. Apenas regresé, yo empecé con el feminismo.
Ça, c'était dans les années 80. Et quand je suis, quand je suis revenu à Bolivie, j'ai commencé à faire ces mouvements de Mujeres Creando. Usted la puede llamar y la esperamos aquí porque no es de la Radio Suiza. Radio Suiza. Le va a pelear la.
Es analista, especialista en este tipo de temas. Ha escrito mucho sobre
sobre
feminismo. Trabaja con.
¿Vale? ¿Está bien?
Okay.
Avant tout, est-ce qu'elle peut dire en fait qui elle est et quels sont ses liens avec Mujeres Creando?
Bueno, mi nombre es Rosario Akin.
Bueno.
Ya, yeah, entonces este.
Je m'appelle. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo era tu nombre?
Rosario Akin.
Je m'appelle Rosario Akin.
Yo soy de la parte amazónica de Bolivia.
Je suis de la partie amazónica de la Bolivie.
Esta casa es muy importante porque Bolivia es una sociedad racista. Es una sociedad colonial.
Okay. Elle dit que ces maisons sont vraiment importantes parce que la Bolivie, c'est une nation, une société raciste, qui est colonialiste. Alors, elle a une importance vraiment grande.
La colonia, lo que dejó en estas tierras fue una cultura de odio. Esa cultura de odio se expresa. Odio porque tú tienes otra raza, racismo. Odio porque tú tienes otra opción sexual, homofobia. Es machista, es decir, odia porque tú eres mujer. Es misógina, odia a las mujeres, ¿no? Todas las taras centradas en el odio son producto de una sociedad colonial. Y Bolivia hoy, sí, más que nunca, está enfrentada con sus odios, porque tenemos un presidente indio.
Alors, c'est la colonie qui a laissé la trace de haine. Il y a des haines par rapport à la race, par rapport au genre, non, à la choix sexuelle. Alors, mais maintenant, c'est plus fort, non, on sent plus fort ces sentiments de haine, surtout dans ce contexte qu'on a un président indien.
Donc, elle ne pense pas que M. Morales, Evo Morales soit un féministe?
Non, para nada. La sociedad boliviana en general no es feminista. Las propias mujeres no se consideran como feministas en Bolivia. En Bolivia es una mala palabra, feminismo. Por eso esta casa es una afrenta.
Bah, en general, ni Evo Morales ni même les femmes sont féministes. En Bolivia, féministe, c'est comme un mauvais mot.
Un vilain mot.
Un vilain mot, oui. C'est pour ça que cette maison est une affronte, non? C'est une rébellion, non? Contre ça.
Une rébellion.
Une rébellion. Ouais.
Ok, alors centre juridique justement de Mores Reando, dans la maison, et il y a une dame justement qui est avec son petit et qui vient demander de l'aide. Alors on va lui demander comment elle s'appelle et puis au fond pourquoi elle est ici et qu'est-ce qu'elle vient chercher.
Mi nombre es Patricia Andrade y yo vengo a pedir una ayuda. Necesito sacar mis cosas de mi domicilio porque mi pareja es demasiado celoso, ya no puede dar más. Entonces, por esa razón, él, al ver que no tengo a nadie, entonces ha tenido su fuerza y me ha pegado y necesito sacar solo mis cosas, reclamo mis cosas nada más.
Je m'appelle André Andrade. Je viens ici parce que j'ai besoin de reprendre mes choses de chez moi parce que j'habitais avec mon mari qui est très violent, très jaloux et je ne supporte pas. Alors c'est ce que je viens à chercher une aide pour pouvoir faire ça.
Et qu'est-ce qu'elle a déjà pu faire ici en parlant avec les gens d'ici?
Más o menos fuimos a mi casa y mi ex pareja lo había cerrado con dos candados y ahora me dijeron que vuelva para que le hagan citar aquí porque esas son mis cosas, no son ni las cosas que hemos comprado con él. Y yo estoy durmiendo en la casa de mi cuñada, pero no quiero molestarla más. Desde el lunes estoy con la misma ropa y necesito mi ropa.
Bon, hier, on m'a aidé pour aller chez moi pour reprendre mes choses, mais mon mari a fermé la porte, on n'a pas pu entrer. Alors maintenant, je suis en train de faire une citation pour qu'il vienne ici et pouvoir faire et régler les choses. Je suis avec cet vêtement depuis lundi, j'habite maintenant chez ma belle-sœur, et bon, c'est ça.
Est-ce qu'elle envisage de venir passer quelques jours ici, puisqu'il y a un endroit pour dormir ici?
Quizás hasta que se arregle mi situación puede ser, porque como, no sé cómo recuperar mis cosas. Puede ser.
Oui, peut-être parce que je suis dans une situation difficile, alors ça pourrait être une possibilité.
Ok. Ben, tu lui dis qu'on la remercie beaucoup, qu'elle a accepté de répondre aux questions, et ben, qu'on espère que les choses vont s'arranger pour elle et qu'elle pourra recevoir de l'aide.
Bueno, te agradecemos mucho por tu testimonio. Esperamos de corazón que te vaya bien y que todo se va a arreglar. La cosa es que tengas paciencia y vas a ver que todo va a ir bien. Muchas gracias.
Gracias.
Minuscule studio, une minuscule boîte de prise de son avec la vitre. Et c'est un monsieur indien qui s'occupe d'envoyer la musique et d'enregistrer les sons. Ce matin, j'étais à mon hôtel à Hostal Republica. Et j'ai demandé à la femme qui faisait le déjeuner si elle connaissait Deseos, la radio. Elle m'a dit oui, c'est très bien, et elle s'est mise sur la chaîne, donc on a écouté un peu la radio. Quel est le rôle de cette radio? Quelle est son importance?
El primer objetivo de la radio es no ser un medio de comunicación.
La radio, c'est pas un moyen de communication.
No ser pluralista, sino estar parcializadas antes.
C'est pas une radio pluraliste, c'est au contraire une radio d'opinion. On va donner une opinion.
No, una radio parcial. Una radio parcializada. Por ejemplo, vienen las mujeres del mercado a hacer una denuncia contra el municipio. Nosotras no nos ponemos aparte, sino que asumimos la denuncia de las mujeres como parte de la radio.
Par exemple, si viennent les femmes du marché avec une dénonce, elles assument une position avec ces femmes. Elles dénoncent cette problématique. Alors, elles prennent une décision.
Elles prennent position.
Luego es también un espacio para construir alianza hombres-mujeres, no con cualquier tipo de hombre, pero con algunos hombres, porque Mujeres Creando antes hizo todo solo mujeres. La radio es una radio de alianza hombres-mujeres.
La radio c'est aussi un espace de lien entre hommes et femmes, mais pas avec n'importe quel homme. Il y a des hommes distincts, non? Pas les hommes machistes, non?
J'ai entendu qu'une partie de l'émission servait à dénoncer publiquement les hommes en fait qui maltraiteraient leurs femmes ou qui ne payaient pas en fait la pension pour leurs femmes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça continue? Et quel est le but de l'opération?
Es cambiar un poco las posiciones. No es la mujer que dice, sino yo. Es mi voz. Y es nombre y apellido del hombre, no de la víctima, ¿no? Entonces es poner en vergüenza al hombre que no paga las pensiones por los niños. Es invertir la situación. Y esto nos ha servido mucho porque hombres que no quieren escuchar públicamente su nombre prefieren negociar con la víctima, pagar. Y bueno, si la víctima quiere negociar, nosotras aceptamos, ese no es nuestro problema.
Le but c'est de mettre la honte aux hommes, non? D'écouter ces noms dans la radio, la dénonce, et ça, avec cette dénonciation, les hommes commencent à faire, à régler ces problèmes. Alors le but c'est ça.
Donc on change un petit peu la dynamique, hein? La femme d'habitude est la victime, cette fois-ci c'est l'homme qui est mis en demeure de régler ses comptes, de payer, et il arrive que grâce à ce système, il y a des hommes qui décident en fait de négocier avec leurs femmes de façon à ne pas passer à la radio.
Quitte la maison des femmes créatrices, Mujeres Creando. Cette radio Deseos, Stéphane, vous me racontiez qu'elle est quand même assez incroyable. Il y a cette liste de pères irresponsables, vous l'avez entendu. C'est la présentatrice, l'animatrice qui la scande comme ça, avec une musique assez joyeuse d'ailleurs. Hein.
Voilà, il y a des musiques sympas qui passent derrière. Et puis on entend les noms voilà, des maris qui n'ont pas payé leur traite, enfin ce qu'ils devaient à leur femme, leur pension plutôt. Mmh. Et c'est assez impressionnant d'entendre cette litanie de noms.
Mais ça fonctionne, vraiment. Est-ce que les hommes ont peur? Ils payent en ayant peur d'être cités?
Alors, en tout cas, on m'a expliqué que c'était un petit peu la dernière mesure possible. Donc, on les avertit et en fin de compte, si vraiment il n'y a aucune réaction, les noms sont lus. Et comme c'est une radio qui est pas passablement écoutée, je pense que ça peut générer un sentiment de honte chez les gens qui vont s'entendre.
Ouais, c'est vrai, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une radio destinée à un tout petit public féministe, etc. C'est quand même une radio qui est écoutée à la passe.
Oui, la radio, elle est connue, elle est écoutée. Malgré le fait que ce soit une petite radio, elle a une certaine notoriété. Donc, c'est peut-être un poids, en fait, dans une société où, effectivement, les femmes partent un petit peu perdantes, on va dire, au début. Hein.
Mm-hmm. Vous, en tant qu'homme, avec Sébastien, tous les deux, vous avez été assez bien accueillis, on dirait. Vous avez croisé d'autres hommes dans cette maison, des femmes créatrices ?
Oui, parce qu'à midi, on peut manger. Il y a un menu pas du tout cher et il y a pas mal de gens du quartier qui viennent manger là, se rencontrer. Donc c'est un lieu qui est ouvert. Maintenant, en venant comme journaliste, avec un traducteur, en étant homme, on a dû passer un petit peu à montrer patte blanche avant que les gens se confient. Mais au final, on était très bien accueillis comme partout ailleurs en Bolivie.
Vous n'êtes pas sentis comme des intrus ou des visiteurs indésirables?
Non, pas vraiment.
Véronique Marchand, vous êtes toujours avec nous en duplex de Lille. Je rappelle que vous êtes sociologue, vous signez aux éditions de l'Harmattan un livre intitulé « Organisation et protestation des commerçantes en Bolivie ». Alors, vous avez écouté, comme nous, le reportage de Stéphane Herzog, une réaction ?
Oui, disons que Mujeres Creando, c'est un type de féminisme assez radical. Le féminisme en Bolivie existe quand même depuis longtemps, de la part surtout d'intellectuels. Il y a beaucoup d'ONG aussi qui ont travaillé sur le thème du genre. Et tout ça a débouché sur des réformes légales, et notamment un ministère du genre créé en 93. Donc, en fait, en Bolivie, on peut dire que le féminisme existe de manière... avec des réformes légales, de manière construite, et que, bon, Mujeres Creando, c'est quand même un mouvement assez marginal et assez radical.
Vous connaissiez cette maison ? Vous y êtes allée ?
Oui, j'y suis allée. Enfin, j'ai pas du tout étudié. Mais j'y suis allée boire des verres là-bas. C'est vrai que il y a le côté aussi se débrouiller entre femmes. Donc, et le côté aussi lesbienne qui est.
Et anarchiste, hein, que relevait.
Et anarchiste. Alors que. Nombre. Enfin, je vais pas les citer, mais il y a énormément d'ONG. Féministes, libérales, qui ont agi dans le cadre politique, en fait, dans le cadre légal, et qui ont obtenu beaucoup d'avancées.
Ces féministes-là qu'on entendait...
C'est tellement le but de Mujeres Creando.
Voilà, parce qu'elles sont assez à part, enfin, elles se réclament en tout cas comme des rebelles de la société bolivienne, mais en quoi elles sont différentes des Cholitas que vous avez étudiées et rencontrées?
Bon, déjà, elles n'appartiennent pas du tout au même niveau social. Les Cholitas, on ne peut pas les qualifier de féministes. Enfin, moi, je ne les qualifierais pas du tout de féministes.
Le contraire ou pas non plus.
Elles se battent avant tout pour la subsistance familiale de leurs enfants, donc pour la famille. Et elles se battent pour avoir des espaces de vente que la municipalité remet en cause régulièrement.
Comment les féministes considèrent les Cholitas, justement, puisqu'elles ne sont pas féministes, elles ne luttent pas forcément pour se libérer de leur mari ou des hommes en général? Elles sont considérées comment, ces Cholitas, par les féministes de cette maison?
Elles sont, en même temps, elles sont très très nombreuses, puisqu'il y a de plus en plus de mouvements migratoires vers les grandes villes, notamment La Paz. Donc, il y a une volonté aussi de récupération. Il y a une volonté... Enfin, moi, j'avais discuté avec des féministes qui me disaient... mais c'est aussi bien pour les Cholitas que pour les femmes de mineurs qui ont lutté énormément en Bolivie... et qui ont mis fin à la dictature, enfin qui ont participé à la fin de la dictature en 78, donc c'est pas rien. Disons que pour certaines féministes, elles se trompent, ces dames se trompent de combat. Elles sont pas dans le bon chemin. Il y a quand même un jugement normatif sur la manière dont elles devraient mener le combat.
Pour en revenir aux Cholitas, justement, vous disiez, elles sont la plupart du temps commerçantes, vendeuses. On peut parler d'une communauté uniforme de Cholitas ?
Alors, pas du tout. Mais je voulais simplement préciser par rapport à votre question précédente, c'est qu'à la fois, en Bolivie, on a peut-être moins de féministes, mais on a énormément de mouvements de femmes. Donc, on a des mouvements féminins, et en France, on a du mal à comprendre ça, parce qu'on se dit mouvement féminin avec que des femmes, c'est des féministes, et pas forcément.
Et quelle est la différence, justement ? Siècle,
le premier syndicat féminin, exclusivement féminin, est créé en 1927 par des cholitas, justement, des marchés. Et bah, la différence, c'est que le combat premier n'est pas de lutter contre les hommes. C'est pas ça, c'est de lutter contre une domination sociale.
Et de s'entraider.
Et de s'entraider entre femmes.
Donc c'est ce que font ces cholitas. Mais apparemment, en tout cas c'est ce que dit aussi votre livre, elles sont pas toutes au même niveau, ces cholitas.
Voilà. Et en même temps, ça les rend visibles. Donc même si elles se revendiquent pas en tant que féministes, on peut dire que les femmes sont de plus en plus visibles dans la société, mais elles-mêmes ne vont pas se dire féministes. Donc il ne faut pas leur, leur octroyer ce qu'elles ne voudraient pas.
Ce qu'elles ne revendiquent pas.
En tant que sociologue, ce qu'elles ne revendiquent pas. Mais ce n'est pas du tout un groupe homogène. Et d'ailleurs, les luttes des femmes en général en Bolivie sont très hétérogènes. Et à l'intérieur même des cholas, des cholitas plutôt, on a aussi une grande hétérogénéité entre la vendeuse ambulante qui essaie de se faire un petit espace et puis qui va se faire rabrouer par les vendeuses organisées, qui elles ont un syndicat, et puis celles qui, les plus anciennes dans les marchés couverts, qui eux se sont battus vraiment au début du siècle. Les premiers marchés couverts ont été créés en 1927, et ça a été vraiment une conquête pour elles de créer ces marchés.
Pourquoi c'est exclusivement des femmes, justement, qui sont vendeuses ? Pourquoi uniquement des cholitas ? Il n'y a pas de vendeurs ?
Alors, il y a très peu de vendeurs, parce qu'on considère que c'est... alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on présente ça comme si c'était inné, finalement, que ben, c'est un métier de femme. C'est, bon, au départ, c'est vraiment parce que c'était la femme qui bougeait et l'homme qui restait plus sur les terres. Mais on transforme une donnée un peu sociale en quelque chose d'inné, de naturel, comme toujours dans toutes les sociétés, quand il est question de genre, on présente ça de manière naturelle. Mais ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'il y a quelques commerces qui sont tenus par des hommes, ce sont les commerces de boucherie.
Parce que c'est un métier d'homme.
Parce que c'est un métier d'homme, et c'est comme ça, et parce que ça demande beaucoup de force. Mais en même temps, les femmes se sont créées un peu comme ça, un monopole. C'est-à-dire que de plus en plus, avec le chômage, des hommes essayent de se lancer dans la vente, mais les femmes ne sont pas contentes du tout, parce qu'elles disent, c'est un homme, il peut très bien être chauffeur de taxi...
Il ne va pas nous piquer notre place, quoi.
Il ne va pas nous piquer notre place. C'est un métier de femme.
Ces cholitas, vous disiez tout à l'heure que le nom cholitas leur a été donné finalement par une autre couche de la société bolivienne, hein, les dames, les señoras. Voilà. Comment elles-mêmes, les cholitas, se distinguent du reste de la société bolivienne ?
Alors, en fait, disons que pour revenir un tout petit peu à l'histoire, au XVIIIe siècle... Donc, les paysans ont commencé à migrer de plus en plus. Les hommes se sont coupés les cheveux, ont appris l'espagnol. Les femmes ont voulu ressembler aux Espagnols et ont emprunté un costume espagnol.
C'est donc le costume des cholitas, aujourd'hui.
Et paradoxe, elles n'ont pas continué. Puisque les Espagnols ont abandonné cette façon de s'habiller. C'était une façon européenne de s'habiller.
Par opposition aux indiennes, aux paysannes indiennes.
Voilà, le borsalino, tout ça, bon, c'était européen. Et puis, en fait, elles ont arrêté. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, c'est créé une couche sociale intermédiaire, avec donc des artisans, des commerçants, des employés domestiques, etc. Et par rapport au reste de la société, donc, pour les femmes, les señoras de vestido, être une chola, c'est un peu dépréciatif. C'est-à-dire, c'est, oui, indienne en ascension sociale. Hein, c'est-à-dire, tu es avant tout une paysanne, hein, quand même. On te le rappelle. Et pour les Indiens, c'est au contraire une couche sociale supérieure. Donc, on fait vraiment l'hypothèse, on peut dire d'ailleurs, que si elles n'ont pas abandonné ce vêtement, c'est que finalement, c'était plus avantageux pour elles d'être au-dessus des Indiens que en bas de la hiérarchie, en bas des dames de la ville. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et elles se sont finalement définies par le vêtement. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont très apparentes. Voilà. Hein. C'est aussi ce que vous me racontiez, Stéphane. C'est qu'on voit les cholitas un peu partout dans la rue. On les repère assez vite.
Oui, elles tiennent le haut du pavé. Effectivement, elles sont partout dans les rues. Elles tiennent les marchés. En général, elles sont une certaine force morale ou psychologique, et elles en imposent pas mal. Et comme le disait hier Carmen Bilbao Lavieja, une partie d'entre elles sont riches et le montrent en mettant de l'or en fait dans leur bouche, en fait, sur leurs
dents en or, ou des choses comme ça. Oui, Véronique Marchand, on parlait des vêtements donc qui distinguent ces cholitas. On va continuer à parler des vêtements des cholitas et de l'importance du vêtement. On va peut-être écouter un tout petit peu de musique avant ça. Vous connaissez Zulma Yugar?
Non, je ne connais pas.
Bon, je vous laisse la découvrir alors.
D'accord.
Esta noche de amor voy buscando la luz de tu dulce mirar, porque el pasado se fue llevándose la canción del corazón en aquellas románticas noches que no olvidaré. La guitarra es un rojo clavel perfumando el secreto jardín de las horas vividas ayer. Cuando estaba tan cerca de ti, solo queda el recuerdo de un grato placer y el rumor de la luna de abril. Por eso vivo mi bien, tunante y trasnochador, huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor. Por eso vivo mi bien, tunante y trasnochador, huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor.
La chanteuse bolivienne Zulma Yugar, qui protège depuis longtemps la culture traditionnelle bolivienne. Elle a même une fondation à son nom. Dans ce but, le titre de la chanson, c'est El Trasnochador. Je crois que je l'ai bien dit. Véronique Marchand, on parlait des cholitas et surtout de leurs vêtements. Des vêtements qui sont, Stéphane me le disait à l'instant, un peu comme des uniformes.
Oui, c'est ça. En fait, il y a vraiment tout est codifié. Le chapeau melon, les dents, les mariposas, c'est-à-dire les broches qu'on met sur les chapeaux. Mmh. Aussi les boucles d'oreilles, les châles, et en fait, brodés de couleurs. Il faut que ce soit des couleurs très vives. Et il y a des moments comme ça où, justement, on retourne le stigmate, on va dire, de la société globale. Et ce sont des moments de fête où vraiment ce qui compte, c'est de rivaliser de tissus, de les plus virevoltants les uns les autres, quoi. Et donc, c'est magnifique. Je veux dire, c'est vraiment... on sent la fierté et la valorisation de cette identité à ce moment-là.
Au point que, justement, vous en parliez tout à l'heure des concours de Miss Cholita, Miss Cholita Passenia, je crois que ça s'appelle. C'est un concours qui a été lancé il n'y a pas longtemps. Il y a même une Miss Cholita qui a été disqualifiée parce qu'elle avait des fausses tresses. Donc, c'est interdit d'avoir les cheveux courts quand on est Cholita.
Ah oui, bien sûr. En fait, bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que même à l'intérieur, puisqu'il est repris positivement, donc ce stigmate, à l'intérieur de, je disais, la hiérarchie des Cholitas, on se dispute un peu pour dire qui est la plus chola. Donc les femmes des marchés couverts disent, nous on est des vrais cholas, on a tout ce qu'il faut, on a une éducation, on a une insertion citadine, donc on reprend plus les codes de la société globale. Et on reproduit ça par rapport aux vendeuses de rue et par rapport aux ambulantes. On dit oui, celle-ci, elle vient d'arriver. En réalité, elle vient de la campagne. Elle met un châle. Elle veut nous faire croire qu'elle est chola, mais pas du tout. On voit
c'est
bien,
pas une vraie,
c'est,
pas
c'est pas une vraie. Elle sait pas bien se maquiller. Elle a pas une belle broche, etc., etc. Donc en même temps, j'allais dire, c'est presque triste, enfin pas triste, mais c'est-à-dire que la discrimination dont elles sont l'objet, elles la reproduisent
à l'extrême et à l'extrême.
À l'extrême et à chaque étage.
Vous-même, Véronique Marchand, vous êtes restée un bon moment en Bolivie justement pour étudier ces cholitas.
Deux ans. Ouais.
Vous vous souvenez de votre première cholita, la première cholita que vous avez rencontrée?
Je crois que c'était Christina, donc c'était une dame de 82 ans. Bon, l'espérance de vie en Bolivie est beaucoup plus faible, donc c'était vraiment une
très vieille dame.
Très vieille dame qui était sur son poste de vente, mais comme une reine qui trône et qui avait justement toute cette fierté et qui m'expliquait la fondation du marché, mais d'une manière aussi très affectueuse. Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis arrivée, aujourd'hui, je suis chercheur CNRS au laboratoire de Lille, mais à l'époque, j'étais étudiante, c'était pour faire ma thèse, donc elle m'avait prise un peu sous leur aile protectrice de « on va t'expliquer ça ». Puis bon, pour moi, c'était un rôle pratique, quoi, parce que du coup, on m'expliquait tout.
Donc vous avez été pour elle la jeune femme occidentale qu'il fallait un petit peu guider, protéger.
Voilà, guider, protéger, qui était un peu différente des autres, parce qu'au départ, bon, j'étais la gringuita, j'étais la blanche, donc aussi celle... j'étais associée même à une américaine, parce que certaines n'avaient aucune notion de géographie et ne savaient même pas la différence, enfin ne savaient pas où était la France, ne connaissaient pas la France. Donc au départ, j'étais rejetée. Puis ensuite, j'ai été prise comme ça un peu sous une aile protectrice, presque maternelle. Moi, j'ai participé donc à toutes les manifestations. Et comme je suis grande et qu'elles sont en général petites, j'étais toujours une tête de plus que tout le monde. Donc dans les gens dans la rue disaient « Oh, gringuita, tu devrais mettre la pollera, tu devrais t'habiller comme une cholita », puisque je manifestais avec elle. Et c'était elle-même qui me défendait, qui disait « Non, elle ne doit pas mettre la pollera. »
C'est pas une cholita.
Elle est différente, voilà, mais on l'accepte. Mais j'ai déjà dû mettre la pollera et la sombrero.
Ah, vous avez trouvé quand même à votre taille.
Ouais. Mais c'était pour dans une soirée, prendre des photos, etc.
Pour faire la fête. Mais les autres Boliviens, justement, quand ils vous disaient, mais vous devriez vous habiller comme une cholita, etc. Ouais. C'était plutôt dépréciatif. Ils voyaient ça d'un mauvais œil, ce rapport amical.
Oui, c'était dépréciatif. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à choisir mon sujet, je savais pas sur quel type de femme travailler, puisqu'il y avait plusieurs luttes de femmes, et on me disait surtout ne travaille pas sur les cholitas, ce sont des gens spéciaux.
Et donc, ça, c'était qui, les Boliviens qui vous disaient ça?
Les Boliviens, et même, je dirais, des señoras, parfois même, je dirais, sociologues, qui me disaient ce sont des gens spéciaux, tu n'arriveras jamais à les comprendre, elles mentent. Et moi, au plus on me disait ce sont des gens spéciaux, au plus j'avais envie de.
Et vous
par
êtes...
esprit peut-être.
De contradiction. Et vous êtes plongé dans cet univers et finalement elles vous ont raconté pas mal de choses.
Oui, ouais, pas mal de choses. Et puis en fait, moi, ça a été. Ma question, c'était pourquoi on porte ce vêtement pourquoi on se dit chola et je me suis rendu compte que dans les marchés, finalement, même si on peut dire que c'est lié au marché. Ben dans les marchés, il y a plusieurs générations. Les mères migrantes, donc elles sont des polleras. On comprend, elles sont migrantes, etc. Elles ont tous les critères. Mais parmi les filles, il y en a qui sont de Bastido à l'occidental et il y en a qui sont des polleras.
Et comment ça se choisit, donc, ça? C'est quelque chose qui se transmet. C'est la mère qui décide, c'est la fille?
Alors justement, ça a été l'objet de mes recherches. J'ai essayé de trouver tous les critères qui pouvaient expliquer qu'une fille qui travaillait au marché, qui parlait les deux langues, c'est-à-dire l'aïmara, qui a le dialecte local, et puis l'espagnol, qui avait le même âge, dont la mère était migrante, qui étaient nées toutes deux à La Paz, et pourtant, il y en avait une qui se disait « je suis chola » et elle était habillée de pollera, et l'autre, elle était des vestidos. Donc ça m'a vraiment interrogée.
Et alors,
je me suis rendu compte que le seul critère qui était valable, c'était le niveau d'instruction. C'est-à-dire que les filles qui sont de Bastido avaient été pratiquement jusqu'au baccalauréat, puis n'avaient pas trouvé de travail, donc s'étaient rabattues au marché, avaient fait le marché. Mais ça voulait dire que chez la mère, il y avait un projet d'ascension sociale.
Et pour les autres, non. Stéphane, vous vouliez encore ajouter quelque chose, puis après on arrivera vraiment à la fin de cette émission. C'est dommage, on pourrait en parler longtemps.
Et oui, effectivement, à propos d'ascension sociale, parce que quand on va dans la maison féministe de Mujeres Creando, en fait, la seule cholita ou les seules cholitas qu'il y avait, c'était les femmes qui travaillaient au service ou dans la cuisine. Par contre, les autres femmes qui fréquentaient étaient plutôt des universitaires, des intellectuels, qui parfois avaient des petits bouts d'habits traditionnels sur elles, mais qui clairement étaient dans la... dans la modernité, entre guillemets.
Des vestidos,
exactement.
Hein, comme vous dites.
Ouais. Exactement.
Ouais, merci beaucoup, Véronique Marchand. On arrive déjà au bout de l'émission. Merci pour cet éclairage rapide sur le monde des cholitas en Bolivie. Je rappelle le titre de votre livre, qui était votre thèse, sortie chez Armatan en 2006, Organisation et protestation des commerçantes en Bolivie. Merci, bonne journée.
Merci à vous.
Demain, Stéphane Herzog, dernier jour de voyage à La Paz, vous nous emmenez tout naturellement au cimetière.
Absolument, c'est logique hein, pour un dernier jour. Donc on va se rendre au cimetière général de la ville de La Paz, situé sur 90 000 mètres carrés, 9 hectares de terre et 200 000 âmes. Dans des cryptes, des niches.
Mais ça sera tout sauf triste, hein, rassurez-vous, il y aura des chansons, des guitares, etc. On va y rigoler. Merci beaucoup à toute l'équipe du Dromadaire, Stéphanie Coudray, Dany Sula, Monsieur T. Carrel-Zil Carnet de Route, Laurent Pavia pour les musiques et puis Isabelle Barthes avec nous en régie aujourd'hui. Très bon après-midi à vous, Mélanie Croubalian, Stéphane Herzog. Salut à vous, il va être 10h à La Paz et tout juste 15h sur la première.